France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. Découvrir la musique anglaise avec comme guide Geoffrey Tate, c'est le cadeau que Claude Maupomet offrait aux auditeurs de France Musique en juillet 1988. Dans un entretien enregistré à Aix-en-Provence, où il s'apprêtait à diriger Così fan tutte, le chef d'orchestre britannique dressait en 2 heures un panorama de la musique anglaise. Je vous propose d'écouter aujourd'hui la première partie de cette émission qui débutait par une œuvre vocale du compositeur Orlando Gibbons.
Geoffrey Tate, Britannia Lyrica, comment l'entendez-vous ?
Ah, je voudrais toujours, je crois, être un tout ambassadeur de la musique de mon pays. Et parce que j'étais en train de penser la façon de le faire, surtout parce que maintenant je suis ici à Aix, dans un festival lyrique, festival pour la voix, et j'ai réfléchi que la musique anglaise, c'est très dominé, très très dominé, par l'idée de la lyrique, par la voix, par la musique et les paroles ensemble. C'était une espèce de leitmotiv, disons-nous, qui était là dès le début de la musique anglaise, et qui reste jusqu'à maintenant, et qui domine aussi la musique instrumentale de notre pays. Et c'est peut-être avec ça dans la tête que j'ai choisi cette combinaison assez curieuse des choses. On va voir ensemble comment ça se fait.
Voilà. Alors, nous sommes à Aix, quelques jours avant la retransmission de ce COSI que vous dirigez. Et il y a quelques mois, nous étions allés vous voir à Londres. Et justement, j'avais été frappée de ce que vous disiez que vous aimiez beaucoup, en somme finalement, la comédie près des larmes, un peu la comédie qui frôle la tragédie. Et c'était la raison pour laquelle vous aimiez énormément Così.
Oui, et ça je retrouvais ici énormément dans l'atmosphère de notre mise en scène, avec nos chanteurs. Je crois qu'une des choses très fortes dans ce qu'on a fait, c'est cette qualité de les larmes qui sont très proches. Tout le temps, surface de Così, et qu'on a retrouvé cette chose aigre-doux.
Douze-amère.
Douze-amère, absolument, tout le temps, dans cette musique extraordinaire. Même aussi avec l'atmosphère, peut-être, de la nuit de Provence, quelque chose qui est très doux, mais quand même un peu triste. C'est très bien de l'avoir fait ici.
Oui, et alors, c'était la première fois que vous veniez à ce festival, il paraît.
Oui, absolument, première fois. C'était toujours une image que j'ai eue de Rosebud et tout ça, quand on a parlé de ça. Mmh. Et c'est un lien, un endroit très spécial, ce cours. On sent ça, que c'est une acoustique très intéressante, au même temps un peu sec bien sûr, mais très clair, très convenable à Mozart, faut dire. Très convenable à Mozart. Je vois maintenant pourquoi Mozart C'était le dieu de Aix dans le sens-là. Aussi l'atmosphère du sud qui est très convenable à Mozart. Parce que Mozart, c'était un être curieux des deux, du nord et du sud. Mais
oui, d'ailleurs, c'est parce qu'il a été inspiré tout de même par l'Italie, par l'Espagne.
Oui. Enfin, oui. Oui, absolument. C'est-à-dire, ça, tout ça, c'est dominant presque dans les opéras. C'est seulement dans les fins de sa vie, même Seraglio, qui était une œuvre en allemand. En allemand, c'est une œuvre dominée par le sud. C'est seulement jusqu'à la fin, Flûte enchantée qui est pas du sud, mais en dehors de ça. Et Cosi, c'est peut-être le plus, on sent le plus le sud ici.
Oui, ça c'est vrai. La musique le dit.
Oui, absolument. Les musiques parlent de ces atmosphères de nuit, de sensualité, de chaleur, de tout ça, de quelque chose expansif presque. Parce que c'est plus expansif. Surtout dans le deuxième acte, quand il laisse les récitatifs, par exemple, devient très longue. Il comprend bien le rythme du sud. Tandis que même, on peut dire que Figaro, c'est aussi du sud. Mais Figaro, ici, il y a un côté français, un côté beaucoup plus... qui va plus direct, autre énergie, surtout dans les récitatifs. Tandis que Cosi, vraiment, voilà, on est à Naples. On est à Naples.
Oui, d'ailleurs, quand le bateau s'éloigne, on le voit.
Oh oui, on le sent.
On le sent, on le voit. Et bon. Alors, nous sommes dans la villa que vous habitez, près d'Aix, un peu en dehors. C'est pourquoi on entend des oiseaux et quelquefois des avions. Mais il fait frais et on est très bien. Et justement, quand on était allé vous voir à Londres, on avait parlé, comme moi j'avais été très frappée, de la façon dont vous parlez de la musique avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de passion, et que les Français, la musique anglaise, entre Purcell et Britten, il ne se passe rien pour les Français en Angleterre du tout.
Et avant Purcell, un peu.
Et avant Purcell, Gibbons peut-être, justement. Alors, j'avais dit, vous devriez faire un peu expliquer la musique anglaise aux Français, les beautés de la musique anglaise. Bon, alors, on a commencé à l'instant avec The Silver Swan.
Oui, The Silver Swan. Oui, c'est un exemple parfait de la fusion de musique et parole dont j'ai parlé.
Mais ça, c'est une chose très importante pour vous.
Oui, c'était dominant pour moi presque comme musicien, parce que j'étais exactement le même intérêt dans les paroles que dans la musique.
D'ailleurs, ce médecin, vous, ce musicien amateur qui n'a pas mal réussi finalement, avait bien pensé au théâtre à un moment.
Ah oui, j'ai même pensé être metteur en scène. J'ai mis en scène une pièce de Shakespeare, de Ibsen, deux, trois de Pinter, Beckett, quand j'étais étudiant. Oui. Et j'étais toujours fasciné par les paroles. Et c'était surtout la raison pourquoi j'étais très intéressé dans l'opéra. C'était la fusion de choses théâtrales et choses musicales. Et moi, j'étais chanteur aussi, mélomane, bien sûr. Mmh. Mais j'ai chanté beaucoup. Et ça, c'est quelque chose de très anglais. Je crois qu'il y a une grande tradition de chanter. De mélomanes, les chœurs, pas seulement les chœurs, mais aussi les petites groupes. Et c'est à Cambridge que j'ai chanté dans une petite groupe, le Magical Society. Et là que je commence à bien apprécier le trésor énorme de notre époque d'Elizabethaine, et même avant, bien sûr, le médiéval, qui était extraordinaire, la richesse de notre... Mm-hmm. Jusqu'à la grande époque de Gibbons, qui était l'âge d'or, si on veut, le Jacobean, le fin d'Elizabeth, le commencement de James. Ça amène avec un petit change d'atmosphère parce que après Gibbons, on a commencé à faire plutôt les chants, les choses pour les voix seules jusqu'à Purcell. Et on va voir, regardez pourquoi Purcell est comme ça. Mais j'ai commencé par peut-être disons-nous, Gibbons c'est le plus achevé, le plus raffiné parce de tout.
Et pas le Deller Consort.
Et pas oui, parce que le Deller Consort, pour nous, c'était le découverte presque le Deller Consort, cette voix de Deller, cette voix extraordinaire, fin, étrange, féminin, masculin, les deux choses ensemble, qui a vraiment, c'est la qualité de cette musique en plus. Mm-hmm. Et c'était le concert qu'il a créé, qui a bien exposé pour tout le monde les beautés de cette musique après la guerre. Cet disque, c'est un des premiers disques que j'ai jamais acheté. Moi, j'ai acheté dans mon premier encombre, je me rappelle très bien, j'étais très très frappé par la qualité du son et par la sensibilité d'harmonie et tout ça là-dedans. Aussi pour les sensibilités des mots. The Silver Swan.
Ah oui, c'est très beau.
Who living had no note when death approached, unlocked her silent throat. On n'a presque pas besoin de la musique pour ça, mais avec la musique, c'est encore plus extrême, plus terrible. Cette image de le cygne qui ne chante pas jamais dans la vie et qui, au moment de mourir, commence à chanter. Et voilà, on écoute cette qualité de son étrange de cette consort. Qui, vraiment, ça c'est le cygne qui chante au dernier moment. Ça, j'étais tellement frappé. Et c'était aussi à Cambridge qu'on va peut-être aller où notre premier...
Oui, William
exemple.
Byrd.
Oui.
Alors ça, c'est la messe pour quatre voix, je crois. Et le Gloria.
Le Gloria, oui. Disons-nous que Byrd, qui était le début d'Elizabeth, c'était un peu plus tôt que Gibbons, disons 40, 50 ans plus tôt. Si on connaît le fin de l'architecture anglaise médiévale, le style perpendicular, ça c'est le style de King's College Chapel partout, que j'espère que tout le monde connaît
ce
bâtiment, c'est un style tout à fait anglais, tout à fait anglais. Et c'était pour cet espace, cet énorme espace très ouvert. C'est pas chargé, c'est très ouvert et très haut.
Oui.
C'est un grand espace, c'est seulement espace. Et de la lumière, parce que c'est plein de fenêtres, beaucoup plus peut-être que... Parce que nous avons une lumière très particulière en Angleterre. Il y a beaucoup de lumière, c'est pas la lumière de Provence, c'est une lumière plus
grise.
Plus grise peut-être.
Assez intense,
Mais il y a quand même une intensité. Et on n'a pas besoin, parce que nous sommes beaucoup plus au nord, d'éviter le soleil. Au contraire, nous cherchons le soleil. C'est à cette époque-là qu'on a commencé, les architectes, à chercher le soleil. Et la musique, c'était créé pour cette chapelle, cette musique. Et c'est la musique, c'est une luminosité extraordinaire. Il y a le contrepoint, le contrepoint des quatre voix, mais très clair, on entend tout ce qui passe. Et une espèce de calme qui sont produits par les grands espaces dans une église perpendiculaire. C'est un calme où on respire plus que peut-être dans les espaces plus foncés de l'œuvre gothique, qui est souvent très... Et nous parle de roman, parce que le roman, c'est noir là-dedans, c'est merveilleux, mais c'est foncé.
Sombre, oui.
C'est très sombre. Non, ça, c'est la musique qui parle de la clarté de ces espaces. Fin médiévale, début Renaissance en Angleterre. C'est-à-dire, c'est une époque énorme.
Gloria in excelsis Deo.
William Byrd, nous écoutions de la messe pour quatre voix, le Gloria, par le chœur du King's College, Cambridge, et sous la direction de Sir David Wilcox.
Mm-hmm. J'ai chanté.
Sous sa direction.
Sous sa direction, oui, à cette époque-là, absolument.
Et Jeff Rattet, je crois que vous voulez suivre l'ordre chronologique parce que vous démontrez quelque chose.
Oui, je voudrais peut-être être un peu didactique en disant nous, en montrant comme dans les siècles, on regarde cette ligne exacte de voix, de ligne vocale qui change avec le goût des siècles, mais qui reste quand même pareil, je trouve, jusqu'à maintenant. Mais il faut suivre ça comme un fil.
L'évolution.
L'évolution de ça, très important, parce que même ça change dans une façon que créer les possibilités pour l'époque après, par exemple, le change dont j'ai parlé entre Gibbons et Purcell, qui a créé la possibilité de la musique instrumentale. Parce que Byrd, voilà, cette musique qui est très complexe sur le plan de contrepoint et tout ça, tandis qu'après Gibbons, avec le plus d'emphase sur le solo, c'était la possibilité aussi d'avoir les solos d'instrumental, et ça a commencé. Mm-hmm. Au moins un peu plus tard en Angleterre que dans le continent. Mais avec Purcell, ça a commencé les sonates pour Purcell, pour violon. Mais ce que c'est intéressant dans la musique de Berthe, c'est cette pureté, innocence d'expression.
Tout à fait, oui, c'est l'impression qu'on a.
Oui, absolument. Tandis que maintenant, on va dans une autre direction.
On va écouter John Wilby.
Oui, John Wilby, qui est un des plus grands, peut-être le plus grand de l'école de madrigal anglaise, qui a créé des choses juste avant Gibbons, c'est à peu près cette époque. C'est après Bird. Mm-hmm. Maintenant arrive le monde, les sonnets de Shakespeare, disons-nous, l'atmosphère, le monde plus métaphysique, plus sensuel qu'avant. Avec les émotions très complexes, un peu tordues. Et la musique commence à prendre cette atmosphère aussi. Les émotions de Bird sont les émotions de la religion directes, simples. On écoute ça dans la musique intense, oui, absolument, mais pas avec les demi-tons qu'on va maintenant trouver dans les madrigales. Et qu'on trouve aussi dans Shakespeare, aussi une complexité de langage, c'est réfléchi dans une complexité de contrepoint et d'harmonie, surtout harmonie, en Wilby, qui est un grand maître d'harmonie, en ayant entendu qu'on écoute cette musique par l'audace parfois. Oui, c'est pas l'audace de Gesualdo. C'est pas cette audace qui est un peu trop osée, disons-nous. C'est un peu trop extrême.
Assez c'est une audace, oui.
Oui, c'est compliqué, mais pour le plaisir d'être compliqué. Mm-hmm. Tandis que, ça c'est très anglais, nous sommes seulement compliqués en servir quelque chose. C'est-à-dire, il y a toujours un règle, quelque chose qui donne un moyen.
Qui retient.
Qui les fait quelque chose moyen, disons-nous, plus qu'extrême.
Ouais.
Et ça produit pour moi peut-être une des plus belles musiques qu'on peut écouter dans la musique anglaise, cette époque de la madrigal élisabéthienne. Et le Doran Sweet Night qu'on va écouter, c'est de nostalgie, qui est aussi quelque chose de très anglais. Si
Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Doran Sweet Night, Doran, c'est-à-dire c'est une prière aux nuits de venir.
Oui, viens.
Viens, si on dit, draw on, viens, douce nuit. Et, petite chose personnelle, j'ai chanté dans le chœur de madrigal de l'Université de Cambridge et on a donné toujours un concert le fin de le trimestre d'été. C'était le fin de mai. Et c'était toujours sur les bateaux, sur le cam. Ah. Et à la fin de chaque concert, on a chanté ce madrigal en partant en bateau de la foule qui attendait pour nous écouter. Et c'était un effet remarquable.
Ça, oui.
Délicieux.
Ouais, ouais.
Et voilà, la musique.
Et ça, c'est par le The Wilby Consort.
Oui.
Peter Pears.
Il a créé cet ensemble et je trouve que c'était, dans cette époque, le plus grand, après le Della Consort, le plus grand consort des madrigues qu'on a eu.
Thank you.
Draw on Sweet Night, madrigal de John Wilby, par The Wilby Consort, c'est-à-dire Jeffrey Dead. Peter Pears, April Cantello.
Oui.
Ursula Connors, Margaret Cable, Noreen Willett, Nigel Rogers.
Nigel Rogers, oui. qui a fait lui-même beaucoup de choses très importantes dans la musique oui. baroque. Et choses.
Et Ian Partridge.
Ian Partridge qu'on compte très bien.
Jeffrey Shaw.
Oui, c'était une grande époque, si on pense, pour les chanteurs anglais de cette musique. Et qui a créé aussi maintenant, il y a aussi des gens qui commencent à être très connus ici, mais on a toujours eu cette tradition, c'était pas les voix d'opéra, mais les voix pour cette musique qui ont, presque à chaque époque après la guerre, même avant la guerre, grande tradition de voix de chambre.
Oui, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je crois que les Anglais sont beaucoup plus favorisés dans leur éducation musicale parce qu'ils pratiquent beaucoup plus qu'ici.
Oui, cette tradition, c'est pas seulement dans l'école, mais c'est une tradition dans les villes, dans les villages, de chanter dans les chœurs, de chanter. Mmh. Je m'en rappelle très bien à Farnham, quand j'étais petit enfant, il y avait 8, 10 très bons amateurs qui ont fait un petit groupe de madrigales, qui chantaient les madrigales sur les gazons dans l'été. Et oui, on peut rire, peut-être c'est pas tellement bien, mais il y avait ça existait tout dans chaque ville, dans chaque village. Oui. Ça existe toujours. Et comme je dis, Britannica Lyrica, c'est pas une blague. Nous chantons, nous sommes une race de chanteurs. Mm-hmm. Qui a commencé à cette époque-là. Et c'est peut-être pas... C'est pas étrange qu'on ait produit des voix très importantes aussi dans l'opéra. Tout le temps, parce que ça vient d'une fondation dans chaque partie de le pays.
Alors, Gibbons, les Français connaissent, Bird aussi. Je suis pas sûre que Wilby soit aussi connu ici, d'ailleurs. Mais voici maintenant Purcell, qui lui est très connu.
Ah oui, parce qu'on dit que c'est le seul qui commence d'anglais presque. Mais on regarde qu'il, maintenant on commence à comprendre, comme j'ai dit, qu'il vient d'une grande tradition.
Filiation, oui.
Il était vraiment à la fin, disons-nous, d'une grande tradition presque, qui a commencé avant 1400, même avant ça, c'était une tradition de 400 ans, presque 400 ans. Et sans Gibbons, il n'y aura pas Purcell, absolument pas. Et entre les deux, il y a Laws Jenkins, tous les gens qu'on entend parler, mais on entend rarement, malheureusement, même plus maintenant, heureusement. Mais Purcell, c'est seulement un génie, mais dans une grande école. Même il y avait des contemporains très importants. Blow, par exemple, John Blow, qui est merveilleux. C'est-à-dire, il ne faut pas voir Purcell en isolation.
Mais Purcell, je pense quand même que c'est une musique absolument unique.
Ah oui, parce que c'est une voix.
Là, il y a quelque chose d'unique dans la musique de Purcell qui n'est qu'à lui. C'est quand même la marque du génie, non?
Oui, je trouve. Même parce que c'est un génie, c'est notre grand génie. Même que j'adore Gibbons, même que j'adore Dowland, Wilby qui aussi. On peut dire que oui, Dowland avait quelque chose de spécial, mais c'est plus serré que Purcell qui dominait la musique instrumentale, la musique d'opéra, la musique pour les voix, les musiques sacrées aussi, avec une voix tout à fait personnelle, tout à fait. On dit ah voilà Purcell dans le sens rythmique. Parce que c'est très particulier son sens de rythme, dans son sens de mélodie qui est unique, dans son adoration pour cette forme surtout de chaconne qu'il adorait, qu'il a pris pour lui-même, et qui a créé les grands chaconnes de la fin de Dido, parce que ça c'est une espèce de chaconne, passacaglia, disons-nous, cette merveilleuse passacaglia pour cordes en sol mineur que Britten a fait un grand arrangement.
Oui.
Et maintenant, le Evening Hymn, qui est aussi une espèce de chaconne passacaglia, disons-nous, mais pour voix seule. Aussi dans Purcell, surtout, ses réponses des mots. Ça, c'est quelque chose pour un anglais très important, qu'il a si saisir l'atmosphère d'un mot. dans une mélodie, sans détruire la mélodie, parce qu'il y a des compositeurs qui a saisi les mots, mais en déformant la mélodie, mais personne n'a la unique capacité de faire une mélodie où les mots sont très importants et sont colorés sans détruire cette ligne qu'il voudrait. Et aussi, là, on voit avec la ligne vocale de Purcell aussi la possibilité de faire des lignes instrumentales très importantes. Voilà maintenant quand j'ai dit le partir de les sonates, les très sonates de Purcell vient, les structures de mélodie viennent de cette structure de voix solo et qui a commencé à faire une espèce d'école instrumentale aussi dans la musique anglaise. Qui a resté. Après ça, on a les gens comme Boyce, Hahn, qu'on joue rarement, mais si on écoute cette musique, on écoute aussi cette tradition de instrumental vocal, les instruments qui sont comme les voix, qui reproduisent les lignes mélodiques de la voix. Et Handel, qui est à peu près 50 ans après, ou même moins, après Purcell, a entré aussi dans cette tradition. C'est-à-dire, il a, parce qu'il lui-même avait son tradition d'Allemagne et tout ça, mais il a saisi cet aspect de la musique anglaise, l'importance de la ligne mélodique, et à sa façon, a créé aussi un langage qui est très anglaise. Handel, c'est un compositeur anglais. Il est un compositeur allemand, bien sûr, mais aussi un compositeur anglais.
Oui.
Parce que s'il n'était pas en Angleterre, j'en suis absolument sûr que la musique ne serait pas comme ça. Est-ce que c'est connu en France, cette merveilleuse, l'Allegro penseroso il moderato?
Oui.
Ça, c'est vraiment la tradition de Purcell. Ça, c'est pour moi. Là, on regarde, et c'est cette œuvre qu'on peut retrouver dans les œuvres de Britten, par exemple. C'est-à-dire, il y a une tradition. Et j'en suis presque sûr que Haydn a bien apprécié ça pour le Schöpfung et Seasons, qui sont dans l'esprit, pour moi, pas tellement allemand, autrichien, plutôt anglais. C'est-à-dire, cette tradition de oratorio qui est presque opéra, qui est une espèce de liberté, de joie, c'est profane, disons-nous. Nous avons réjoui dans cette atmosphère. Mais le père de tout, c'est Purcell.
C'est ça. Alors, cet Evening Hymn, c'est par Alfred Deller qui l'a chanté.
Oui, parce que je crois que c'est le disque de Deller qui a, pour la plupart de la public, même la public anglaise, a redonné Purcell à nous. C'était après la guerre quand Deller a fait des disques de Purcell très, très importants. C'était exactement la même époque que Britten lui-même a découvert ça. Britten a fait pour Deller et pour Pierce aussi les arrangements de Purcell pour le rendre plus près, disons-nous. C'était pas pour pas détruire l'esprit de Purcell, mais pour rendre la possibilité de faire Purcell dans des concerts normaux, une chose comme ça. Parce que, comme vous savez, de trouver un clavecin à cette époque, c'était très, très, très rare. Et c'était les premiers deux ou trois disques 78 de Deller qui a créé une sensation énorme. Parce que, pour la première fois, on écoutait un contre au contre, que c'était surtout la voix de l'époque de Purcell. Et on écoutait cette musique faite avec cette pureté, justesse, essence de style, que maintenant on regarde tout à fait normal. Et à cause de ça, je voudrais, plutôt que trouver quelqu'un de notre époque en chantant ça, de retrouver Della en ça, de voir ce qu'il a fait avec cette musique. En plus, le Evening Hymn, c'est une des plus belles choses, parce que là, on retrouve, on a parlé de Bird, cette clarté et innocence de la musique religieuse anglaise. Et le Evening Hymn, c'est quelque chose de très religieuse. Ça correspond pour moi à l'atmosphère de Marvel, les métaphysiques, les grands poètes métaphysiques anglais, qui a parlé avec les choses de Dieu avec une simplicité, aussi quelque chose de presque profane, le mélange maintenant de profane et religieuse et innocent. Marvel parle d'un jardin, le Evening Hymn, c'est l'expression presque d'un enfant, de joie dans les faits de le soir, soit donné par Dieu. Et on écoute tout ça dans la musique.
pas seul. Evening Hymn. C'est vous qui devriez dire tout ça, franchement.
Oh, pourquoi?
Ah, non,
mais c'est vous le dites dans un façon si gentil. J'aime
oui,
beaucoup.
Ça fait
beaucoup
rire, l'écoute. Oui, je
non, 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 je ne ris pas. Honnêtement.
Bon, en tout cas, cette musique, vraiment, ne touche pas terre.
Non, non, c'est la métaphysique totale. C'est-à-dire, c'est des gens, ça saute sur tous nos problèmes, ça parle, ça soulage. C'est la musique des anges, absolument.
Absolument.
Et quand ils chantent Alléluia, oui, on est déjà là, on est déjà là. C'est extraordinaire.
Oui, une espèce d'ivresse. De...
Oui, oui, c'est la vraie ivresse célestiale. Oui, c'est ça que je comprends.
C'est ça. Et alors, Delay.
Ça, c'est aussi un génie. Un génie de sensibilité, je trouve.
Quelqu'un qui aurait fait beaucoup pour la musique. De...
Oui, qui a redécouvert pour nous plusieurs choses, tout avait oublié. C'était extraordinaire.
Bien, alors là, maintenant, nous allons faire un saut dans les siècles. Et c'est Mendelssohn.
Oui, curieux. J'ai parlé de Handel, qui était un Anglais par adoption. Et Mendelssohn, c'est le deuxième Anglais par adoption, si on veut, qui était très attiré par des aspects d'Angleterre et tout ça. Et aussi important parce qu'il a donné une tradition à nous, c'est-à-dire à cause de... Il a donné une force aux traditions de oratorio, aussi instrumental, qui était très fort en Angleterre. On était toujours les gens très doués, les orchestres étaient très recherchés dans la fin du XVIIIe. Haydn, par exemple,
est venu à Londres.
Très heureux à Londres.
Jusqu'à Vienne.
Absolument, beaucoup plus. Et il a trouvé un très bon orchestre. Mm-hmm. Le rôle Philharmonic Society était très important. C'est le rôle Philharmonic Society qui a demandé à Schubert de créer le 9e, le dernier symphonie. Si on pense ça, Londres était toujours très important. Et voilà, c'est dans cette tradition que Mendelssohn a créé pour nous son Scottish symphonie écossaise, c'est aussi, n'oubliez pas que à cette époque, Beethoven a commencé à découvrir les chansons populaires d'Écosse aussi, il y a des ça. On a commencé de retrouver un tout peu le nationalisme dans la musique, qui était avant ça pas tellement important. Aussi peut-être on voit ici le début de le sens de la musique de folklore qui était de plus en plus important en Angleterre jusqu'à tandis qu'au moment que à la fin de le siècle Vaughan Williams et Holst a commencé à chercher comme Bartok en gros la musique populaire, la musique de folk song qu'on va retrouver qui la musique de folk song n'a pas jusqu'à maintenant fait une influence énorme dans la musique anglaise. Oui, on le retrouve dans les moments populaires, dans les exhibitions, mais pas dans la musique très sérieuse comme Wilby. On trouve dans les choses caractéristiques de Gibbons, The Cries of London, mais c'est toujours en emploi dans un atmosphère caractéristique. Mendelssohn, dans ce scherzo, a vraiment presque trouvé la musique de bagpipe de Musette, de tout ça, dans cette scherzo, très originale. Cette orchestration, pour plus, très originale. C'est créé pour un orchestre qui était vraiment très virtuose, c'est-à-dire les orchestres qu'il a trouvés à Londres. Et je trouve ça très important. Ça a bien influencé cet esprit de virtuosité de Mendelssohn. Ça a bien influencé tout le 19e siècle. Et au moins qu'on n'a pas jamais produit, malheureusement, un grand compositeur dans ce siècle. Je trouve que peut-être c'est aussi la mauvaise influence de Mendelssohn dans le sens que les dernières œuvres de lui sont malheureusement si faibles que ça produit une école affreux après lui, beaucoup, beaucoup moins doué que lui. Il fallait attendre jusqu'à Stamford et Paris pour rattraper un tout petit peu le niveau qu'on a eu avant. Et c'était pour Elgar le mettre encore en route, disons-nous. Mais je voudrais écouter cette musique de Mendelssohn parce que c'est le 19e siècle, il faut écouter quelque chose de ça. Aussi, ça nous donne le vrai Angleterre de joueurs virtuosos. Et aussi, ça commence le folklorique qui devient le deuxième lien, le deuxième fil lyrique dans notre voyage, dans notre petit voyage dans la musique anglaise.
Alors, donc, ce scherzo de la symphonie écossaise, orchestre Philharmonia, sous la direction de votre cher Otto Klemperer.
Oui, parce que je trouve que Klemperer, c'est le seul qui a bien compris Mendelssohn. Il n'a jamais joué trop vite, heureusement. Et le Philharmonia, à cette époque, c'était comme peut-être l'orchestre de Londres de Mendelssohn, pour que Mendelssohn, un des meilleurs du monde.
Thank you.
Mendelssohn, le scherzo de la symphonie écossaise par l'orchestre Philharmonia sous la direction d'Otto Klemperer. Jeffrey Tate, ça vient très bien derrière Purcell, je trouve.
Oh.
Parce que c'est une espèce de délicatesse aérienne un peu aussi.
Absolument. Aussi l'esprit de rythme, de légèreté de la danse qui est toujours dans un Purcell, on retrouve ça
immédiatement.
Absolument.
Oui.
Immédiatement.
Oui, oui, oui.
Et unique, ça.
Maintenant, nous arrivons à la musique britannique. Que les Français déjà connaissent et n'apprécient qu'à moitié, avec pourtant quelqu'un de très important, puisque c'est Sir Edward Elgar.
Oui, mais il n'a jamais écrit un opéra. Et bien sûr, on a dit Britannica Lyrica.
Oui.
C'est
on
curieux.
On a dit que Lyrica, c'était le lyrisme aussi bien instrumental.
Oui, exactement. Et c'est exactement ce que je voudrais dire, que je trouve que dans les deux concertos, de Elgar, pour violoncelle et pour violon. C'est celui pour violon. Mm-hmm. On retrouve une espèce de lyrisme extraordinaire qui est presque vocal. Mm-hmm. C'est vraiment presque vocal. Mm-hmm. On pourrait dire que ce mouvement-là qu'on va écouter, c'est vraiment chanté par quelqu'un, plus que joué. Et je trouve que ça, c'est vraiment dans l'esprit de lyrisme anglais, c'est-à-dire que tout est dominé par l'idée de voix, de quelque chose qui parle. Et en plus, cet enregistrement que joué par le jeune Menuhin avait une qualité de parler quand il joue en direct, parce que c'est, je trouve toujours ça dans les gens enfants prodiges, quelque chose de très direct qui vient. Après, ils disparaissent, mais quand il est très jeune, il n'a pas peur de jouer, il parle avec le jeu. Et ça, écoute dans sa musique, et ça rendre le mouvement lent le plus, même plus insupportable dans le lyrisme que normalement. C'est dommage, je trouve, qu'Elga n'a jamais écrit un opéra, parce qu'il a pensé à la fin de sa vie de faire ça, et parce qu'il a si bien comprendre la possibilité de la voix et la possibilité d'expression vocale, si on écoute les oratorios. Mais je ne voudrais pas choisir ça, parce que j'ai dit non, c'est plus intéressant d'écouter cette qualité dans la musique instrumentale, qui est aussi partie très importante de la musique anglaise. Et Elgar, qui a saisi toute la tradition de 19e d'Allemagne et reproduit cette tradition dans notre tradition. C'est-à-dire, on a tous le son.
Assimilé.
Assimilé, oui. Mm-hmm. On a la sonorité de l'orchestre de Wagner, de Bruckner, tout ça, mais rendu tout à fait anglais par ce lyrisme, par aussi une qualité dont j'ai parlé de Wilby, aussi de Gibbons, et même on peut trouver en Bird et en Purcell, la nostalgie, quelque chose échappé, une émotion qui était là, qui est échappée, et qu'on essaie de retrouver. C'est quelque chose dans notre caractère anglais aussi, je crois, un tout petit peu. Nous avons toujours une nostalgie de quelque chose qui était avant mieux que maintenant. C'est notre qualité conservateur. Nous voudrions garder les choses parce qu'on a peur qu'on en a chance.
Sera moins bien.
On a souvent raison, malheureusement.
Oui.
Et dans ce mouvement-là, voilà la nostalgie affreuse d'un patient, un patient en plus. Nous sommes très passionnés, les Anglais.
Oui.
Maintenant, écoute,
vous,
peut,
oui,
oui.
C'est sûr.
Non, mais pas seulement moi. Et Elgar surtout. Et c'est la musique d'un grand, un homme passionné qui regrette beaucoup et qui a perdu quelque chose. Et le violon parle de ça avec une tristesse, une intensité terrible.
Thank you.
Avec cet extrait du concerto pour violon d'Edouard Delgar se terminait le premier volet de Britannia Lyrica, une émission de Claude Maupomé sur la musique anglaise avec l'un de ses plus fervents ambassadeurs, le chef d'orchestre Geoffrey Tate. Nous retrouverons la suite demain. Cette archive est bien sûr disponible à la réécoute et au podcast sur le site francemusique.fr à la page des trésors de France Musique. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Béatrice Trichet pour la réalisation et de José Bernays pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.